On va tourner dans Matthieu au chapitre 20. Matthieu 20. Non, mais je fais le message du dimanche. OK, juste laisser une petite parenthèse là-dessus. Bon, faut enregistrer, mais c'est pas grave. Là, on est les après-midi parce que on a eu ça, bon, à cause avant, Laurent, couvre-feu, machin, truc. On va revenir à un horaire de soir. Je veux dire, la réunion du soir, probablement en septembre, parce que là, tu sais, le mois d'août, de toute façon, tout est chamboulé. Fait probablement qu'en septembre, on va revenir réunion du matin, réunion du soir, parce qu'en même temps, on peut se reposer. Puis il y a plein de petits-enfants qui, tu sais, c'est les siestes, puis tout, là, puis les grands-enfants aussi, des fois qu'une sieste fait du bien, hein. En tout cas, je parle pas pour moi, là. Non, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de sieste, là, puis ça, je sais pas, en fait, si ça me ferait peut-être que je dormirais plus de la nuit, je sais pas trop, là, mais... Fait que juste pour vous dire, c'est ça, mais là, on continue ça pour l'été, puis ça permet aussi des temps comme après-midi, faire un petit feu, puis des enfants qui jouent dehors, tout, fait que c'est ça. Matthieu 20, nous allons seulement lire la fin du chapitre, on l'avait pas lu la dernière fois, versets 29 à 34. Et après, pour le message, on va lire un peu plus tard l'entrée triomphale. Mais avant, je veux lire ce qui vient avant l'entrée triomphale. Donc, vous êtes là tout le monde? Matthieu 20, 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse? » Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent! » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Vous savez, des fois, il y a un petit problème avec nos Bibles, ils ont des divisions de chapitres et de versets, puis c'est très commode, là. Je veux dire, là, je viens de dire, on tourne dans Matthieu 20, ça l'aide, là. Si j'avais dit Matthieu, 257e mot, ça aurait été peut-être un peu plus long, là. Fait qu'il y a une raison pratique à ça, mais des fois, ça nous joue un petit peu le tour, où est-ce qu'on se fait des séparations psychologiques entre les chapitres, entre les événements. Ben ici, c'est un peu ça qui arrive. Jésus a parlé de la grandeur, selon lui, on a vu ça la semaine passée. Puis là, en sortant de cette ville-là, de Jéricho, il guérit des malades, mais c'était dans son chemin, c'était comme tout dans un même parcours en s'en allant vers Jérusalem. Et c'est ce qui précède l'entrée triomphale à Jérusalem, dont on va parler, on va lire le texte dans quelques instants. Mais ici, je veux juste souligner que c'est significatif, que puis en passant, c'est un message un peu... Bon, il ne va pas tant verset par verset, on regarde vraiment la vue d'ensemble, autant ce qu'on voit là que tantôt l'entrée triomphale. C'est significatif que le roi ici, parce qu'on sait que Matthieu nous présente Jésus comme le roi d'Israël, le roi des rois, juste dans le fond, en route vers son entrée triomphale à Jérusalem, on va voir ce que je veux dire par triomphale, parce que c'était pas tout le monde qui était convaincu du cas, mais vous allez voir pourquoi. En route vers ce lieu hein, de gloire de la religion, de la foi d'Abraham, hein, Jérusalem, la ville du grand roi, ben, au sortir de cette ville de Jéricho, lui qui vient de donner, Jésus vient de donner une leçon sur la vraie grandeur. Hein, et qu'est-ce qu'il a dit là, juste avant le texte qu'on a lu, Jésus a dit que « Quiconque parmi vous veut être le premier, qu'il soit votre esclave. » Pourquoi? Parce que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour, non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon comme plusieurs. Ben là, il l'illustre. Parce que il s'arrête sur ce chemin vers la grande entrée triomphale, puis il considère quelqu'un qui était considéré comme abandonné, maudit de Dieu. Les aveugles n'étaient pas, ah, oh, pauvre type, puis tu sais. Non, il était vu, ah, oh, il doit avoir un péché à quelque part. Rappelez-vous la question, c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? Il n'était pas bien vu. Il était vu, ah, ils ont ce qu'ils méritent. Tu sais, les autres, ils disaient, ben, t'es riche, Dieu te bénit, il t'aime. T'es pauvre ou t'es malade, ben, Dieu te maudit, il t'aime pas. C'était ça la pensée de l'époque. Mais Jésus s'arrête pour une personne comme ça. Et c'est significatif. Pourquoi? Parce que Jésus s'en allait à Jérusalem. Là où il y avait beaucoup de personnes, dont spécialement les leaders religieux qui étaient aveugles spirituellement. Mm-hmm. Qui croyaient voir, mais qui ne voyaient pas. Mm-hmm. Qui ont manqué, en fait, l'entrée du vrai roi en n'en faisant aucun cas. Mm-hmm. Et Jésus allait vers la croix, que ses leaders voyaient comme le sceau du fait qu'il était maudit de Dieu. Tu vois, c'est un malfaiteur. ils méritent la façon qu'ils meurent. Ils ont juste vu la croix comme juste cet instrument d'exécution. Ils ne voyaient pas au-delà toute la signification de la rédemption, de l'œuvre expiatoire de Christ. Et donc, il y a une valeur allégorique là-dedans. Jésus s'arrête pour l'aveugle. Et Jésus s'en allait dans la ville, puis il se montrait aux aveugles spirituellement. Et il a donné la vue à ces aveugles-là dans sa compassion, lui qui servait. Puis Jésus allait à Jérusalem avec cette disposition. Jésus aimait les pharisiens, aimait le leadership spirituel du peuple qui ne voulait rien savoir. Il se montrait à eux tel qu'il était parce qu'il voulait les amener à voir, eux qui ne voyaient pas. Maintenant, il y a un verset qui est intéressant dans Luc au chapitre 16 et le verset 15. Ça dit, Jésus ici qui dit, « Vous, en parlant au leadership d'Israël, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Et notre texte est une puissante illustration ou une démonstration de cette vérité, mais à l'inverse. Ce qui est méprisé par les hommes est d'une grande valeur devant Dieu. Parce que Jésus, qui allait rentrer à Jérusalem, vous allez voir, c'était méprisable, en fait, pour beaucoup, beaucoup de monde. Vous allez voir pourquoi, là. Vous savez peut-être déjà, mais on va voir pourquoi. Mais pourquoi pour Dieu, par exemple, c'était l'entrée triomphale. Il y avait vraiment quelque chose là de grand. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais on voit aussi que dans cet événement qu'on vient de voir avec les deux aveugles, les évangiles, ici, ça en parle de deux, des évangiles qui single out, qui mettent plus en de l'avant Bartimée, là. Mais en fait, Bartimée et son chum, là, les deux devaient être là, puis ils étaient là, tu sais. Mais n'est-ce pas spécial que cette personne méprisée est un fils d'Abraham, bibliquement parlant, écrit fils de David, puis reconnaît comme roi. Il avait la foi d'Abraham. Hein, et Dieu s'approche de lui. Et qu'est-ce que cette personne-là, méprisée de tous, il exalte, il glorifie Dieu comme étant celui qui est le fils de David, le Messie promis. C'est spécial. On va voir, ça continue même avec le même thème, si vous voulez, avec son entrée triomphale. On va voir ça dans un instant. Maintenant, Jésus lui-même, qui, comme on va le voir dans un instant, allait rentrer dans Jérusalem pour être grandement méprisé par les fils de la perdition, par tous les gens qui étaient là, qui étaient aveugles. Mais Dieu s'apprêtait à l'élever. Son heure de gloire, il approchait de Jérusalem. Et pourquoi c'était si glorieux? Pourquoi c'était triomphal? Parce qu'il s'approchait de la croix, comme vraiment beaucoup plus proche. Et là, on va voir aussi la portée prophétique et spirituelle de ce qu'il faisait là était d'une grande importance. Et lui-même a orchestré les choses. Et au jour même, il y avait de l'importance à ce qu'il faisait là. C'est-à-dire que Jésus ici accomplissait littéralement ce qui était dit dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 26, à son sujet sur les fameuses semaines de Daniel. Parce que Jésus est rentré historiquement, là, ce qu'on va lire là dans un instant, c'est le dimanche, le 9 du mois de Nissan, de l'an 30. Là, je répète ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, j'ai pas fait le calcul, OK? Fait qu'on va faire confiance à celui qui a dit ça, là, mais il y en a beaucoup qui disent ça, c'est calculé. Le décret d'Artaxerxès versus l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a exactement 483 jours, OK? Donc, 69 semaines d'année, OK? Là, je vais pas rentrer dans les détails, vous irez voir plus loin, là, parce que c'est pas ça le sujet de mon message. Mais il y a une précision historique ici, puis c'est vraiment, je veux juste souligner ici que ça a été dirigé, voulu, orchestré par Jésus lui-même pour montrer qu'il est, tu sais, je veux dire, il accomplissait les Écritures exactement comme ça devait arriver. Et c'est significatif parce que ça montrait qu'il était bien le roi qui devait venir, le Messie attendu, comme les prophètes l'avaient annoncé. OK? Et sans plus tarder, on va lire le texte, puis là, on va voir ensemble la signification de ce texte. Non seulement, simplement la signification que les hommes voyaient, signification de ce que Dieu voyait. C'est simple comme message, mais on va considérer ça ensemble. D'abord, au verset 1, ça dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt un âne attaché et un âne non avec elle, détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, se mirent sur eux, et mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Deux significations de ce qu'on vient de lire. D'abord, humainement parlant, okay, la signification terrestre ou humaine. D'un point de vue humain, là, ici, il faut comprendre, là, l'entrée de Jésus à Jérusalem n'avait rien de bien triomphal ou de spectaculaire. Okay? Pourquoi? Pour un Romain là, qui était habitué à voir des conquérants, mettons, qui avaient conquéri tel territoire, puis rentrer dans une ville triomphalement comme étant vainqueur. Les Romains étaient habitués de voir des entrées triomphales, là, même de rois, là, des rois païens, là, dans des villes de l'Empire. Pour eux, là, l'entrée de Jésus ne représentait pas une menace pour le pouvoir de Rome. Je veux dire, s'il n'y avait même pas de cheval blanc et tout ça, OK? D'ailleurs, dans ce sens-là, on sait que Pilate a dit dans Luc 23:4, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pensez-vous que c'est parce que Pilate avait une conception du péché puis je ne vois aucun péché. Non, parce que lui, il dit, je vois pas de menace pour Rome. Je vois rien de coupable. Je vois pas quelqu'un qui fait des séditions puis qui est une menace pour Rome. C'était ça l'idée. Fait que Jésus ici, dans son entrée, là, au niveau humain, là, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait dire, oh, wow, Rome a trouvé son match. Je veux dire, au secours, l'Empire romain va tomber. Il n'y a pas personne qui se disait ça. OK? Première chose à comprendre. Puis en plus, Jésus était habillé humblement. Okay, il n'était pas habillé avec les grands habits, là, parce que normalement, là, les conquérants de même, là, ils arrivaient, puis ils étaient tous... Non. Ses disciples puis la foule étaient des marginalisés. C'est un endroit dans les évangiles, ça dit qu'ils venaient de la Galilée des païens. Ça non plus, c'était pas très glorieux puis très épeurant. Puis... C'était le peuple commun qui était là, qui l'acclamait puis qui le recevait. Puis il était monté sur une bête de somme, un âne. Hey, c'était un beau cheval blanc, puis tout ça, puis il était décoré, puis OK. Donc, il n'y avait absolument rien de menaçant ni d'impressionnant pour Rome point de vue humain. Et c'est pour que rien n'a changé. Vous savez bien que celui que nous adorons comme notre Seigneur et Dieu, comme notre sauveur est méprisé par le monde, puis le monde n'est pas impressionné par lui. Vous avez juste écouté les gens comment ils parlent de Jésus.
Ouais.
Le petit Jésus, puis on fait des jokes, puis il est diminué tout le temps comme s'il était... Ça n'a pas changé. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce qu'on a vu exprimé par l'ensemble de la société, nos gouvernements, qui ont dit que son corps, dont lui est la tête, n'est pas essentiel? Certains diront, ouais, mais c'est pas juste l'Église qui a été comme ça, mis de côté. Oui, c'est vrai, mais d'un point de vue spirituel, pensez-vous que ça dérange Satan si les religions, des commerces, ont les contre-coups, si l'Église de Jésus-Christ est aussi parmi ceux? Tu sais, les autres, c'est des dommages collatéraux, là. Dans la guerre spirituelle, ce qui fait redouter, on a vu ce matin, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Puis notre Église, on porte son nom. C'est-à-dire que le monde a des répercussions collatérales parce que l'Église de Jésus-Christ est attaquée, c'est collatéral. Au niveau spirituel, ce qui est le plus l'ennemi que Satan redoute, le monde qui redoute le plus, c'est Jésus-Christ et l'Église qui est son corps. Donc, c'est ça qu'on voit en ce moment. Maintenant, Euh, Ça, c'est juste pour comprendre les choses au niveau humain, OK? Je n'irai pas plus en détail que ça, c'est pas très compliqué. Parce que je veux surtout qu'on s'arrête sur la signification spirituelle, OK? Puis, juste pour qu'on voit comment Satan est toujours dans l'erreur, il égare, il est égaré lui-même. Et la question, c'est d'avoir la bonne perspective des choses. Donc, ça amène simplement avec la... On a vu la signification humaine, terrestre, qu'on pourrait dire c'est méprisable, c'est pas grand-chose, mais regardez au niveau spirituel, la vision de Dieu des choses. Spirituellement parlant ici, l'entrée de Jésus à Jérusalem était triomphale. Pourquoi? Savez-vous qu'il n'y a aucun roi dans l'histoire de l'humanité qui a eu autant de support, d'adoration, qui n'a jamais été suivi autant que cet homme-là ici qui rentrait à Jérusalem? Jamais, jamais inégalé, même de proche. OK? Aussi, cette entrée est un symbole de ce règne du roi qui venait établir un royaume qui n'est pas de ce monde. Et bien que, comme on l'a vu là, dans l'explication que je viens de donner sur la signification humaine de son entrée, ça n'a pas épaté la galerie, OK, au moment où est-ce que les choses arrivaient, OK, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il n'en reste pas moins que la portée spirituelle et prophétique était immense. Et je vous explique, spécialement avec les versets 4 et 5, parce qu'on voit, il y a un accomplissement prophétique ici. C'est des citations, un petit bout d'Ésaïe 62:11, mais surtout de Zacharie 9:9, lorsque ça dit, verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les gens voyaient les Écritures s'accomplir. C'est « Voici ton roi ». C'est pas n'importe qui, c'est le roi qui venait. Qu'est-ce que cette prophétie nous révèle? D'abord, sa position. Il était le roi légitime d'Israël pour régner sur Jérusalem. Il est le fils de David avec un grand F, OK? Le fils, là, tu sais, David, il y a déjà un D majuscule, là. Donc, et... Il est reconnu comme roi pour sauver. Pourquoi? Parce que lorsque les gens disent Hosanna, OK? Hosanna, on dit ça en français, Hoshiana, on prononcerait si on parlerait probablement dans les langues de ce coin-là. Ça veut dire sauve maintenant. Apporte ton salut maintenant. L'idée, c'est vraiment, c'est sauve. Sauf que malheureusement, les gens le comprenaient dans un sens terrestre. OK? On va voir un peu pourquoi tantôt, mais bon. Fait que déjà, sa position, le roi qui sauve, et puis il a été reconnu comme tel, peut-être pas exactement comme il devrait, mais il y a cette première chose. Deuxième chose qu'il faut qu'on comprenne, son caractère, a dit ici, la prophétie dit qu'il vient plein de douceur, puis il est humble aussi, il est monté sur un âne. Comme je le disais, c'est une bête de somme, je veux dire, quel roi que ça soit sur un âne. On voit son caractère doux et humble. N'est-ce pas qu'il a dit « Je suis doux et humble de cœur » Donc, Jésus se présente comme roi de façon délibérée. Auparavant, les foules avaient voulu le couronner roi, mais ce n'était pas son temps. Là, lui-même le fait. Okay? Parce qu'avant, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les évangiles, là, ils ont voulu le faire roi, puis il est parti, ce n'était pas son temps. Là, lui-même se présente comme roi. Il se présente comme le roi unique, saint, et incomparable. Pourquoi? Parce que doux et humble, encore là, ce n'était pas des caractéristiques d'un roi. Ce n'était pas typique des rois de l'époque qui étaient orgueilleux et qui se prenaient littéralement pour des dieux. Jésus, lui, il n'y avait pas à se prendre. Il est Dieu, mais il n'y avait pas un caractère orgueilleux. Okay? Et c'est pas ce que la foule voulait. Il aurait voulu quelqu'un, là, justement, là, un gros tof, tu sais. C'est pas ce que les gens s'attendaient de lui. Puis quand il disait « sauve », ben là, c'est ça, là. Il dit « Ah, il est peut-être sur un âne, mais d'une façon ou d'une autre, il va nous débarrasser de Rome. » Quand il disait « sauve », il pensait à « sauve-nous de Rome. Sauve-nous de ces publicains qui nous enlèvent tout notre argent pour payer des taxes qui sont injustes. » Puis c'est à ça qu'il pensait quand il disait « Hosanna ». Comment qu'on sait ça? Ben parce que la même foule, quand ils ont bien vu que finalement ça ne marchait pas comme ils voulaient, la même foule a crié « Crucifie-le ». On voit ça, on va le voir en fait dans chapitre 27. Maintenant, je vais amener une application à ça. Que Dieu puisse saisir nos cœurs sur la signification spirituelle du règne de Christ, de ce qui arrive ici en ce moment. Parce que, savez-vous quoi, dans la vie, souvent, on fait un cas de ce qui arrive ici-bas. On écoute les nouvelles, puis on entend. Puis on fait pas tant un cas des nouvelles célestes, de la réalité spirituelle. Savez-vous que il y a un verset qui a été écrit là, bien longtemps, dans les psaumes, puis qui n'est pas passé date, parce qu'il n'y a pas de date d'expiration, c'est l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Ça n'a pas dit que ça arrêtait en 2020-2021. Notre Dieu règne encore. Amen. Jamais non, son amour ne s'endort. Et, tu sais, quand on lit la semaine prochaine, on va voir quand Jésus a renversé les tables, puis tout ça, il est rentré dans le temple. Et encore là, on voit son caractère, puis comment Jésus venait, puis comme on dit en bon québécois, il fitait pas dans la pensée humaine, dans ce que les gens pouvaient s'attendre de lui. Parce que Jésus, après avoir renversé les tables, parlé avec autorité de même, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit encore là des personnes rejetées. Regardez, là on prend de l'avance, on est d'accord au chapitre 21, mais regardez verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui et il les guérit. Encore là, ça n'a comme pas rapport pour les gens de l'époque que quelqu'un fasse ça de même. Mais on voit son caractère, on voit sa personne, sa compassion, on voit quelle sorte de roi il est. Lui qui recevait ceux qui étaient rejetés. Puis il leur fait du bien, puis il reçoit les louanges de ceux qui encore... Les gens n'en faisaient aucun cas, parce que quand on continue, au verset 15, ça dit « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants criaient dans le temple. » Tu sais, les enfants, je veux dire, un enfant, ça comptait pas. Tu sais, tu pouvais le voir, mais pas, tu sais, à ce temps, on adulte pratiquement les enfants, mais à l'époque, tu sais, je veux dire, un enfant... Mais les enfants criaient dans le temple de Dieu. Hosanna au fils de David, ok? De la bouche, je sais pas si c'est de là que ça vient. La vérité sort de la bouche des enfants. C'était vrai ce qu'il disait. Hein? C'est-à-dire, Jésus venait pour sauver. Ils dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Encore? Jésus les ramène tout le temps aux Écritures. T'as dit qu'il te les replaçait. Hein? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, le règne de Dieu, son règne est à l'opposé de celui des hommes. Il y a vraiment un contraste ici. Les hommes s'attendaient à quelque chose, Jésus amenait complètement d'autres choses. Voilà pourquoi, tu sais, je l'ai cité tantôt, mais quand on peut lire, je le relis encore, mais dans Luc 16, hein, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, mais aussi à l'inverse, ce que les hommes méprisent, c'est d'une grande valeur devant Dieu. Et lorsqu'on est saisi de ça, par la vérité, la signification du règne de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, il n'y a plus rien de pareil. Tout change. Je veux dire, les nouvelles, ce qu'on entend, ça ne nous ébranle plus parce que c'est secondaire. C'est collatéral. Je veux dire, on n'entend pas parler du règne de Dieu dans les nouvelles. Là. En tout cas, ça ne doit pas arriver souvent. Mais quand on lit la Bible, c'est ça qu'on lit. On voit que notre Dieu règne. C'est ça qui doit nous ébranler pour dire... pas nous ébranler, mais nous, on doit dire « Wow! » Ça, c'est... Parce que là, on entend qu'il arrive quelque chose à quelque part, puis que là, ils disent « On va avoir un si vaccin ou vaccinal, puis le passeport, puis oh, on capote. » Non, on devrait dire « Wow! » As-tu vu que Dieu règne éternellement? Qu'il n'y a rien qui résiste à sa volonté? Que Dieu brise le cœur le plus endurci? Ça, c'est des nouvelles, mes amis, qui vraiment... Ça, ça change le monde. Ça fait vraiment des affaires. C'est ça qui doit... venir nous chercher. Maintenant, qu'on ne se laisse pas tromper, distraire, parce que nos yeux voient. Parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'œil. Parce qu'effectivement, ce n'était pas très frappant à l'œil. Mais, n'est-ce pas ce qui arrive lorsque... Ah, j'ai déjà eu ces conversations. Des fois, c'est de la famille, des fois, c'est des collègues de travail. Des conversations, des situations avec des non-sauvés qui la Bible nous dit, hein, ils ont l'intelligence obscurcie, il y a de l'ignorance en eux, l'endurcissement de leur cœur et tout ça. La seule chose qui ressort de ce qu'ils disent puis de ce qu'ils font, c'est ici-bas, ce qu'on voit, le physique, puis c'est toute de la tromperie. Puis on sort de là, on dit, mon ami, c'est triste. Ça vous dit, faites ça? Tu parles à quelqu'un, puis il voit pas plus loin, comme dirait M. Côté, les stores sont fermés. C'est comme... Il n'y a pas de lumière. Mais autant qu'on a le cœur brisé quand on voit ça, parce qu'on sait que ces gens-là, justement, c'est leur état spirituel qu'ils sont en train d'exprimer, qu'ils ne vivent pas au-delà de vanité des vanités puis de la poursuite du vent. Pourquoi nous, le peuple de Dieu, on tomberait dans le piège, nous aussi, de... On devrait connaître mieux, n'est-ce pas? On devrait voir au-delà, puis s'il y a du monde qui devrait avoir de l'espérance, de la joie, puis de la paix au-delà de tout ce qui arrive, c'est bien nous autres. Parce que nous, on connaît celui qui règne vraiment, celui qui est au-dessus de ces choses. Béni soit notre Dieu qui ne nous laisse pas aller à nous-mêmes, qui nous ramène, parce que je crois que Dieu, comme il est rentré de façon triomphale à Jérusalem, quand on est sauvé, il a rentré triomphalement dans notre vie, puis il a complètement tout changé. Vous savez, vous quoi? Je pense qu'en 2020-2021, Dieu a fait d'une façon bien spéciale son entrée ici, dans l'Église, et j'ai pas le goût qu'il reparte. C'est tellement beau quand c'est lui qui règne, c'est beau quand il a sa façon. Gloire à Dieu, que ça continue. Amen?
Amen.
Amen. Je veux attirer votre attention sur un simple mot pour terminer. Verset 10. Ça dit ici, pour décrire son entrée, « Lorsqu'il entend dans Jérusalem, toute la foule fut émue. » Et il disait, « Qui est celui-ci? » Le mot pour « ému » ici, savez-vous c'est quel mot? C'est un mot qu'on connaît. C'est un mot qui est en grec, mais duquel hein, le mot « séisme »,« tremblement de terre ». Le « fut ému », c'est... Donc, le Saint-Esprit, hein, qui a inspiré la parole, décrit ici l'événement qu'on vient de lire comme un tremblement de terre. Ça, c'est spectaculaire. Ça, c'est quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, au niveau prophétique, ce qu'on vient de considérer est d'une importance énorme. Le roi rentrait dans la ville du roi pour accomplir la rédemption. Il faisait ce pas fatidique et, je veux dire, il n'y avait plus de retournage en arrière. Il allait vers la croix d'une façon où est-ce que, je veux dire, ça se passait là, là. Et donc, c'est énorme au niveau prophétique, au niveau spirituel. Et il passait à cette étape cruciale de l'établissement de son royaume. Et ce n'était pas par les moyens et la sagesse humaine. Je veux dire, les gens, la plupart des gens n'ont rien vu d'impressionnant là. Mais quand on regarde les choses à la lumière de la croix, c'était son heure de gloire qui s'en venait. Le Fils de l'homme allait être élevé. Ça amène à amener un dernier point en conclusion. Vous savez, ça dit dans Zacharie, en parlant du temps, parce que vous savez que Agée et Zacharie étaient des prophètes qui ont été suscités par Dieu pour motiver le peuple de Dieu à la reconstruction du temple. Bon, Zacharie, c'est un peu flyé, là. Il y a des visions. Vous dites, mon ami, il avait le goût de construire le temple. Oh, ouais, vraiment, c'était ça le but, parce que Zacharie, ses visions, c'était tout pour dire, c'est parce que le Messie va venir dans le temple. Construisez là, il va... Dieu lui-même va venir habiter là. Mettons que Agée était plus sur les roches, les pierres, puis l'autre était plus de ce qu'il allait être dedans. Mais bon, ça dit dans Zacharie 4:10, « Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Vous parlez des visions, là, parce que ça, c'est une de ses visions. Mais ça dit, ça parle le jour des faibles commencements. Vous savez, cette prophétie qui était par rapport au temple à Jérusalem, et on va parler de ça parce que Jésus est rentré dans le temple, tout de suite, on a vu un petit peu aujourd'hui, là, juste en passant, mais on va voir ça la semaine prochaine plus en détail. Ce que je veux amener là-dessus, c'est que celui qui est plus grand que le temple rentrait dans Jérusalem. Maintenant, le temple, c'était un temple, c'était des pierres, mais celui qui est plus grand que le temple faisait son entrée, le roi rentrait. Et c'était un faible commencement. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose d'impressionnant, mais la Bible dit ici, on ne devrait pas mépriser les jours des faibles commencements. Pourquoi? Parce que Jésus ne venait pas avec la puissance de César. Il ne venait pas avec un grand cheval blanc. Mais comme ça dit aussi dans Zacharie, mais chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, les chevaux et tout le kit. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Jésus, il a été dit de lui, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Puis là, son ministère, c'est un ministère de guérison, d'ouvrir les yeux des aveugles, de donner la délivrance aux captifs. C'est ça que Jésus venait faire. C'est ça son règne. Et donc, 2000 ans plus tard, on a encore les répercussions de cette entrée à Jérusalem. Dites-moi pas que ça n'a pas changé grand-chose, puis que c'était pas significatif. C'est juste que les gens comme nos deux aveugles qu'on a vus au début, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas. Ils ont passé à côté de celui qui se présentait à eux. Alors gardons nos yeux sur lui, notre roi, abandonné, méprisé. Ça nous dit, c'est une autre parole prophétique sur lui, il était méprisé des hommes, mais élu, précieux devant Dieu. La pierre angulaire dont on a parlé dimanche passé. Et dont on fait partie intégrante de l'édifice qu'il est en train de bâtir. Nous aussi, des pierres vivantes. C'est son œuvre. On a la joie d'en faire partie en tant que son corps, son Église. Et donc, ma dernière parole, c'est simplement si. Si on fait partie de cette œuvre et qu'on a la joie d'être participant de la nature même de Dieu, comme ça dit dans 1 Pierre chapitre 4, chapitre 1, verset 4, pourquoi on n'irait pas à lui pour se décharger sur lui de tous nos soucis? Si on est son ouvrage, ayant été à l'avance, que Dieu a préparé à l'avance des œuvres, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à lui simplement pour que lui les fasse? Qu'on arrête de se laisser distraire parce qu'on peut voir, parce que les hommes disent, parce qu'on pense, et qu'on laisse Dieu faire l'œuvre de Dieu à la façon de Dieu. Amen! Merci Seigneur pour le fait que tu es le Dieu réel et véritable qui est doux et humble de cœur. Merci Seigneur que ton règne est un règne de justice, est un règne d'équité, un bon règne qui ne fait que du bien. C'est pas comme le règne des hommes corrompus. On en parlait, puis on le voit. Le règne des hommes n'a rien de bon. À cause du péché, à cause de Satan qui est le prince de ce monde et donc tous sur cette terre en dehors de Jésus-Christ sont des... Ils lui appartiennent, ce sont des fils de la rébellion. Seigneur, on prie qu'en tant qu'ambassadeur sur cette terre, on fasse connaître celui qui est le vrai roi. Ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas, Seigneur, mais nous, en tant que tes ambassadeurs, qu'on les supplie au nom de Jésus-Christ qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Seigneur, rafraîchis notre vision. Qu'on ne voit pas, qu'on ne soit pas distrait par les choses d'ici-bas qui frappent l'œil, mais qu'on aille les yeux sur toi, notre roi, sur ton royaume, et qu'on le cherche d'abord et avant tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Seigneur de nous ramener les yeux là où ils doivent être. Merci Seigneur pour ta parole. On bénit ton nom, on te loue Seigneur pour ta bonté, ta grâce envers nous. Au nom de Jésus. Amen.